Claude, bonjour.
Bonjour.
On parle du procès de France Télécom.
Et dans Ouest France, Nadine se souvient du 30 juillet 2009, quand son compagnon Camille Bodivy se jeta du pont de Cornouailles à Quimper. Et dans l'Humanité, Yann Dervin se souvient du 9 septembre 2009, où après s'être excusé, il se planta un couteau dans le ventre devant ses collègues, et s'il a survécu, il n'est qu'un homme détruit. Et dans Le Parisien, Nicolas Grenouville se souvient du 10 août 2009, quand son frère se pendit chez lui à 28 ans en tenue de travail, avec un câble de France Télécom. Et nos journaux revivent donc une époque où une grande entreprise, endettée, hypnotisée de changements, bousculait et brutalisait ses employés jusqu'à la tragédie. Le Monde raconte la stupeur des dirigeants d'alors de France Télécom, découvrant en 2006 l'effondrement des communications téléphoniques classiques au profit d'Internet, l'urgence absolue alors d'une bascule vers un nouveau siècle, comme on disait. Mais dans ce nouveau siècle, l'action devait remonter sur les marchés et il fallait, témoigne l'Humanité, rompre avec l'esprit du service public. Et dans ce nouveau siècle, 22 000 salariés à l'ancienne étaient de trop. Des salariés qui allaient à la pêche aux moules, ironisait l'alors PDG Didier Lombard. Vous le verrez sur une vidéo que publie Mediapart, précis et implacable Mediapart ce matin, par ses informations et par les archives que le site nous restitue. Et parmi les pêcheurs de moules, il y eut des morts et des destins brisés, et deux juges d'instruction renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, l'ex-PDG Didier Lombard et six anciens dirigeants jugés pour harcèlement moral. Le procès du management par la terreur, dit l'Humanité, un procès hors norme, insiste Lacroix et Mediapart, puisque ces dirigeants n'avaient directement harcelé personne, mais sont jugés pour leur politique. Et ce matin, un journal s'inquiète de ce procès inédit. Et quand les confrères témoignent de vie brisée, les Échos, à l'inverse, plaident pour les entreprises sur lesquelles le procès France Télécom ferait peser une épée de Damoclès. Car, explique les Échos, toutes les entreprises qui doivent se transformer, toutes les entreprises qui héritent d'un statut de service public, toutes les entreprises qui affrontent la concurrence ou les mutations technologiques, toutes les entreprises qui veulent réorganiser ou moderniser leur structure et leur personnel seraient en risque à leur tour. Et le journal cite la SNCF, La Poste, Air France, Renault, Pôle emploi, Technip. Et ce parti pris des Échos, qui choquera peut-être, est fructueux, puisqu'il nous rappelle que le procès qui débute aujourd'hui est un procès politique. Il implique nos choix. Mediapart y voit le procès de dirigeants venus de l'administration qui s'était converti au néolibéralisme, et aussi le procès d'une méthode de néo-management censée incarner la modernité, mais pratiquant en réalité une violence sans précédent. Et Mediapart y voit une violence en résonance avec la conduite générale du pays. D'un journal à l'autre, des mots ce matin se répondent quand on lit dans l'Opinion un portrait du préfet de police de Paris, Didier Lallemand, qui a rétabli, dit le journal, un certain ordre dans les manifestations de gilets jaunes, mais dans les méthodes d'intrigue qu'il pratiquait en cabinet, le management par la terreur, lis-je, et dans l'action fut accusé d'avoir maté les gilets jaunes à Bordeaux dans une stratégie d'intimidation. Il nomme à Paris les gilets jaunes l'adversaire et fait confisquer le matériel des street medics, les médecins, soigneurs, improviser des manifestations, mais nous ne parlons ici que d'un passionné de l'État face à ce qu'il nomme l'insurrection.
On parle de guerre aussi dans nos journaux.
De véritables guerres et de survie et de résistance et de mémoire. C'est dans Libération, un dossier qui porte la patte du patron Laurent Geoffrin, féru d'histoire, et qui raconte la bataille de Dien Bien Phu, où il y a 65 ans, nos troupes furent écrasées par les canons vietnamiens, entraînées dans une cuvette par l'erreur d'un officier qui se suicida. C'était le début de la fin de notre empire, mais on lit joliment les souvenirs du colonel Allaire, 95 ans, presque espiègle d'avoir survécu, et qui se souvient que des soldats vietnamiens lui prirent le pistolet qu'il conservait depuis les batailles de la libération du Mans. Cet homme avait été résistant. Détour des destins. On se souvient dans le Berry républicain du mémorial de Valençay que visitera demain la princesse Anne d'Angleterre, un honneur. Car dans l'Indre, la nuit du 5 au 6 mai 1941, fut parachuté l'agent Georges Béguet, premier opérateur radio qui fit le lien entre la résistance et les services secrets britanniques. Vous lirez aussi, juste avant lui-même, un hors-série du Monde sur la résistance et son esprit qui perdure, et ses portraits de vieillards au regard incroyable qui, en juin 40, furent pris d'un refus viscéral existentiel et entrèrent dans le combat parce que cela s'imposait à eux, ça jaillissait, disent-ils, comme l'amour.
Et pour finir, car elles sont finies, Claude, on parle de vacances.
Et on nous invite à l'évasion.
Elles sont finies,
les vacances. Mais il nous reste l'évasion, et le Figaro nous dit qu'en Chine, on aime et on traduit la littérature française. Ces gens-là ont bon goût. Et le Dauphiné Libéré m'invite à aller à Aix-en-Provence, où, à l'hôtel de Caumont, sont exposés des chefs-d'œuvre venus du musée américain de Guggenheim, jamais vu en Europe. Mais on parle, vous l'avez dit, de vacances particulières qui choqueront peut-être certains. Des vacances halal en ce matin du Ramadan, premier jour d'un mois de jeûne pour les musulmans pieux. Des vacances en Turquie dans des hôtels clubs conçus pour ménager la froide des plus engagés des croyants. Femmes et hommes peuvent là-bas se bronzer et se baigner en des lieux séparés, mais aussi écouter la Macarena, comme dans n'importe quel club. C'est du loisir et de l'économie. Le marché du halal serait en plein boom. C'est dans notre société qui bouge et dans un journal qui, pour une fois, ne juge pas.
Merci Claude Askolovitch pour la revue de presse.